émission spéciale autour du nouvel écoquartier La Vallée à Châtenay-Malabry sur Radio Immo.
Et c'est François Leclerc qui est avec nous. Bonjour François Leclerc.
Bonjour.
Architecte, urbaniste, alors qui vient de travailler sur un projet qui est sorti de terre. Nous y sommes, La Vallée, à Châtenay-Malabry. C'est absolument magnifique, c'est vrai, il faut le dire, le résultat est absolument exceptionnel. Alors on a envie de comprendre un petit peu plus le rôle de l'architecte, de l'urbaniste sur ce projet, évidemment. Par quel bout, moi c'est la première question qui me vient, par quel bout vous avez pris les choses?
Avant tout, c'est tout un imaginaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas nulle part du tout ici. Hein. C'est-à-dire, déjà, Châtenay, qui a toute une histoire particulière. Et puis ensuite, il y a cette proximité avec le parc de Sceaux. Donc cette composition de Le Nôtre qui fait rêver beaucoup de monde, qui fait travailler l'imagination par rapport à tout ce qu'on peut regarder à travers cette déclivité et cette recomposition de la déclivité. Il y a ensuite l'école centrale qui en elle-même aussi un endroit qui fait rêver, parce que c'est de là d'où sont nés l'ingénierie de Gustave Eiffel, par exemple, ou l'imaginaire de Brice Vian. Donc c'est des choses extrêmement, extrêmement larges. Quoi. Donc, et puis en même temps, il y a la Coulée Verte, qui est un projet plus récent, qui passe par là. Et puis en même temps, c'est cette jolie dualité que l'on trouve souvent, c'est-à-dire la relation entre un centre-ville qui est presque villageois, et puis maintenant des infrastructures métropolitaines qui s'appellent Tramway T10, etc. De savoir comment, en même temps, on s'ancre dans ce lieu porté d'histoire et de mémoire, et en même temps, on vient travailler avec ces structurations urbaines nouvelles.
Alors concrètement, justement, en quoi cette histoire a été inspirante pour vous?
C'est-à-dire, c'est une histoire d'espace naturel. C'est-à-dire que les bâtiments, on pouvait avoir une affection pour les bâtiments de l'école centrale. Ils étaient considérés comme obsolètes. Donc, à part ça, on pouvait conserver des espaces naturels, on pouvait garder quelques tracés, une mémoire par rapport à ça. Mais c'est surtout le rapport vers le parc de Sceaux, savoir comment des grandes allées pouvaient déboucher sur le parc de Sceaux, comment la porte d'Hanovre pouvait être aussi l'entrée privilégiée de ce quartier vers le parc de Sceaux, et savoir finalement comment aussi on allait pouvoir recréer des liens fonctionnels, mais aussi usuels, aussi de promenade, aussi de commerce, enfin de mixité complète entre cette ville nouvelle au sens fonctionnel qui se crée le long de la division Leclerc, et puis ensuite vers le centre, la mairie, où il y a les commerces historiques, etc. Donc c'est très beau d'imaginer cette histoire entre une histoire de liens évidents, et puis en même temps cette mise en relation avec l'exceptionnel.
François Leclerc, vous avez pris ce projet un peu comme un défi?
Il y a des défis plus lourds.
Oui, sans doute.
On est dans un contexte très agréable.
Oui.
C'est-à-dire, avant tout, c'est de pouvoir habiter de manière très agréable et très confortable dans la région parisienne. C'est-à-dire, ce qui est bien, c'est de dire que c'est pas la peine d'aller extrêmement loin pour habiter dans la nature, pour habiter à côté.
Oui, en plus, c'est un moment où on sort de la crise Covid, des confinements, etc., et où on a vu les Parisiens vouloir respirer, quoi.
Voilà, on est en plein dans l'interrogation de où est-ce que j'habite, où est-ce que, enfin, un truc existentiel par rapport à son habitation. Et finalement, la proximité avec un parc, la proximité avec une piscine, avec ces commerces qu'on vient amplifier, etc., c'est-à-dire qu'il y a une alternative au départ vers le lointain.
Dites-moi, quels sont les inconvénients dans le travail concret, là, les inconvénients que vous avez rencontrés?
Il n'y a pas d'inconvénients, il y a juste des difficultés qui sont la jauge acceptable entre la densité et cette appartenance à une vision naturelle des choses. C'est-à-dire que il y a une trame urbaine, certes, que l'on propose, mais il y a une trame végétale consistante, et savoir comment la relation entre les deux se fait. La difficulté, elle est là. C'est-à-dire dans une ville nature, comme on dit maintenant, en même temps dans une ville mixte avec une sorte de densité, une sorte d'intensité urbaine. Et puis...
Oui, arriver à faire cohabiter tout ça.
Oui, de dire, c'est de trouver le bon curseur, quoi, de dire on n'est pas dans la fascination de la métropole hyper dense, etc., qui fait l'activité que dont on rêve à certains endroits. Mais là, on est plutôt dans une ville nature. C'est-à-dire, comment préserver suffisamment de nature? La difficulté était là. Mmh. Avoir le sentiment de la nature en permanence dans ce site.
Ça y est, j'ai envie de dire, on a changé de monde. Parce que souvenez-vous, dès qu'on construisait quelque chose en France, ou ailleurs, mais en France en particulier, il n'y avait pas beaucoup de verdure, c'était souvent des pavés, ça retenait la chaleur, etc.
Oui, il y a une période récente dans l'urbanisme où, au contraire, on a beaucoup misé sur l'espace public, la verdure, les noues, les machins, etc., pour dire qu'on allait être vertueux par rapport à ça. Là, ce qui m'intéressait, c'est de dire comment on crée des lieux, bien sûr avec cette végétation très présente, mais aussi avec des commerces évidents, avec des activités professionnelles, puisqu'il y a des bureaux par rapport à un siège social qui s'installe là, et puis aussi par rapport à des équipements qui s'ouvrent vers ce quartier, mais aussi ailleurs, de dire que c'est un quartier, on va dire, il y a une certaine idéalité, autant dans sa relation intérieure à tout ça, équipement, nature, etc., commerce, et puis cette proximité immédiate par rapport au parc de Sceaux.
Quand vous imaginez les choses, vous les imaginez comme si c'était pour vous personnellement, en vous disant j'aimerais que cet endroit, ce soit un endroit où je puisse habiter moi-même.
Oui, il y a toujours un fond d'histoire personnelle dans ce que l'on projette et qui dépend parfaitement du contexte. C'est-à-dire, si je suis dans certains quartiers de Paris, etc., je peux avoir envie de faire des choses un peu denses, avec une sorte de mixité à tous les étages, avec une sorte de folie comme ça, programmatique. Ici, on est dans un lieu comme différent. C'est-à-dire, je me projette là comme une possibilité d'habiter, y compris pour moi-même, mais dans un lieu qui profite effectivement de tous ces aspects de confort, de relations extérieures très apaisées, qui font qu'on appartient à la métropole, mais en même temps dans un secteur privilégié.
Il y a aussi cette innovation aujourd'hui quand même dans les bâtiments, quand on regarde évidemment ce qui est construit, la manière dont c'est construit, le fait qu'on fasse attention aux matériaux, qu'on recycle même des matériaux comme ça a été le cas là, c'est quelque chose vous qui vous parle?
Oui, alors c'est un peu un passage obligé, mais que je trouve très bien. C'est de dire que finalement, évitons trop de camions qui traversent les routes pour faire des bâtiments. Donc tout ce qu'on peut conserver des déconstructions, tout le sol qu'on peut transformer, c'est-à-dire pas virer, etc. Donc c'est intéressant pour une raison évidente de récupération de matériaux, mais aussi par rapport à la nuisance d'un quartier, d'un chantier.
François Leclerc, si vous êtes avec nous aussi ce matin ici à La Vallée, à Châtenay-Malabry, c'est pour parler du travail que vous faites. Cette mission ministérielle, on peut en parler, c'est intéressant et important évidemment. Mission ministérielle pour élaborer un nouveau référentiel pour le logement neuf en France. Concrètement, vous allez remettre un rapport prochainement, si j'ai bien compris, au ministère du Logement, c'est ça? Quel est l'objet?
Il y a plusieurs missions, plusieurs rapports parallèles. Il y a le rapport LEMA, qui a été plutôt fait pour le logement social. Et il y a maintenant le rapport ou la mission Rebsamen pour la relance. Et là, il y a ce que je fais avec Emmanuel Wargon et Laurent Girometti pour savoir comment inventer un nouveau référentiel. L'idée nous est venue en regardant ce qui s'est vécu finalement pendant ce premier confinement qui a un an à peu près, de dire qu'on était confronté à la réalité de nos logements. Et ce que l'on sentait profondément en disant depuis 20 ans, 30 ans, il y a quand même une sorte de réduction permanente du logement. Je ne parle pas de la Châtenay, hein, mais je parle en moyenne sur la France. Ça devient extrêmement prégnant. On le vit au quotidien. C'est-à-dire les chambres très petites, parce que la chambre fait 9 mètres carrés. C'est l'usage qui fait qu'elle fait 9 mètres carrés. Mais finalement, souvent, il y a un placard, il y a un petit bout de couloir pour y accéder, etc. Et on arrive à 7,5 comme espace pour s'installer, dans lequel il y a une seule position pour le lit, la fenêtre s'ouvrant avec un débattement, on ne peut pas mettre vraiment de bureau. Donc quand on reste là 24 heures par jour, ça devient absolument une période insupportable. Un peu de confinement, c'est de la même manière. On a vu que la cuisine avait disparu. Mmh. C'est un truc que l'on perçoit. Enfin, ça fait 30 ans que je le vois, que la cuisine a disparu. Avant, c'était une pièce avec une ouverture sous le séjour, certes, mais aussi possiblement une fenêtre. Mmh. Maintenant, ça a migré au fond du séjour comme une espèce de placard ouvert. Mmh. Mmh. Donc tout ça, ça fait baisser les mètres carrés, les surfaces, c'est-à-dire on est...
Et en plus, on a perdu en hauteur sous plafond aussi.
On est pas près pareil. On a perdu en hauteur sous plafond sur le long terme. Récemment, ça reste autour de 2,50 m. Mais si vous voulez, on se rend compte que dans une période où finalement l'individu en tant que tel a besoin de son intimité, y compris pour le travail... C'est le télétravail, ça c'était un moment, mais peut-être pas que. Peut-être que ça continuera. Mmh. Et de dire qu'à ce moment-là, peut-être qu'une chambre, c'est aussi un endroit d'intimité pour toutes les vies privées que l'on imagine, mais aussi pour pouvoir travailler, etc. On a vu beaucoup de Zoom, beaucoup de Teams, ou je ne sais quoi, avec en fond d'écran des cuisines, des machins, etc. Là, de dire qu'effectivement, l'appartement devient plus accueillant pour des fonctions élargies par rapport au logement, c'est pas un lieu de passage, quoi. C'est pas qu'un lieu de passage.
Mais alors, ça veut dire quoi, au final ? Ça veut dire que dans la construction de demain, il va falloir refaire des appartements un peu plus grands ?
On est en train de travailler sur le fait de proposer des nouvelles, je dirais pas normes, mais des
nouvelles règles, ouais.
Nouvelles règles qui parleraient entre de surface, de hauteur sous plafond, d'orientation, de prolongation extérieure, etc. Et ensuite de savoir qui peut le proposer. C'est-à-dire qui est capable de l'imposer, c'est-à-dire autant au niveau national qu'au niveau local. Mais si vous voulez, c'est une réflexion aussi de dire que les métropoles, ça peut être aussi des territoires en fragilité. C'est-à-dire dans toujours cette notion de concurrence permanente entre les territoires. On n'a parlé que de métropole depuis le début des années 2000. C'est l'alpha et l'oméga de l'urbanisme, avec une notion de vivre ensemble qui était permanente de haut en bas. Et là, de dire que finalement, ces métropoles, on peut avoir envie de les quitter, quoi. On voit ça autour de nous quand même. On voit des gens qui s'interrogent. Alors, c'est pour aller dans le Perche quand il y a des fermettes à récupérer.
C'est vrai que le Perche a beaucoup de succès ces derniers temps.
Oui, on n'a jamais autant parlé du Perche. Mais c'est aussi dans cette possibilité d'avoir son pavillon, sa maison individuelle. Et ça, c'est dans la proximité, j'allais dire. C'est tous les départements de l'Île-de-France, 77, 95, 91, 78, etc. De dire qu'à ce moment-là, ça peut être une nouvelle force qui se met en place de dire on va encore grappiller sur les espaces naturels, sur les espaces agricoles, etc. Et donc rendre la ville un peu plus aimable, c'est plein de sujets. C'est des sujets de circulation, des sujets de prix, bien sûr, des sujets de pollution, des sujets de proximité de plein de choses, mais c'est aussi la brique essentielle qui fabrique la ville, c'est le logement. Comment on fait des logements qui soient plus accueillants, où on peut vivre seul, quoi. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé de vivre ensemble, mais le vivre seul, ça existe aussi, y compris dans sa propre famille. On a le droit d'être enfant et de ne pas être confronté à sa famille en permanence, quoi. C'est des choses comme ça qui me semblent absolument essentielles pour conserver aux villes et surtout aux métropoles un peu denses une attractivité qui est absolument essentielle par rapport à l'avenir de nos territoires.
À votre avis, François Leclerc, alors vous n'avez pas de boule de cristal, mais les promoteurs quand même, depuis très longtemps, ont voulu gagner évidemment quelque part en espace pour construire plus d'appartements, etc. Donc là, vous allez à contre-courant quelque part. Comment tout ça risque d'être accueilli ?
Alors, je le dis comme ça, de manière très, très simple, c'est que les promoteurs ne sont pas si contre. Les promoteurs ne sont pas si contre, ils se... en off, ils peuvent dire que ce qu'ils font est vraiment très petit, qu'il n'y a plus de rangement, qu'il n'y a plus grand-chose, qu'il y a des mécanismes défiscalisants qui ont fait des productions assez bas de gamme qu'on vend comme ça un peu à la va-vite. Donc il n'y a pas toujours une fierté par rapport aux produits sortis. Il y a des promoteurs qui sont très fiers, ils ont raison de leur production. Il y a des villes qui portent une qualité comme à Châtenay et c'est très bien, mais il y a beaucoup de choses qui se font de manière franchement désagréable. Les promoteurs ont tendance à dire, eux, on répond à des appels d'offres. Donc finalement, c'est celui qui en met le plus de logements, qui va gagner parce qu'il donnera la somme la plus importante. Si finalement, on nous donne une règle dès le départ en disant les trois pièces font 65 mètres carrés et pas 55, eh bien on répondra et on donnera un prix pour le foncier correspondant à cette équation. C'est-à-dire il y a finalement une sorte d'ajustement qui se ferait. C'est pas du dirigisme économique. C'est-à-dire c'est le marché qui ferait une régulation et qui ferait que la variable d'ajustement ne serait pas forcément la surface du logement, mais le prix du foncier.
François Leclerc, c'est déjà l'heure de se quitter. Le temps passe vite. J'ai envie de vous dire, on a le plan et on est ici en plein milieu de ce nouveau écoquartier, de ce nouvel écoquartier de Châtenay-Malabry. Qu'est-ce que vous ressentez ? Vous ressentez une forme de fierté aujourd'hui de...
Non, mais écoutez, tant que ce n'est pas fini, moi j'ai toujours une angoisse.
Oui, enfin là c'est bien avancé,
Non, non, c'est bien avancé, mais j'aimerais beaucoup revenir avec les magasins ouverts, les arbres vraiment là, etc. Donc tant qu'il n'y a pas la sanction de la vérité de la vie qui s'installe, je suis toujours un peu inquiet.
Merci beaucoup François Leclerc, architecte et urbaniste de la vallée à Châtenay-Malabry.